enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors, troisième phase, ça va être la phase d'établissement. Établissement. On arrive aux 10 ans d'une histoire d'une église. Et là, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan. Quand vous avez 10 ans dans une église, il faut faire un bilan. Alors, le bilan, il peut être soit positif, soit moyen, mitigé. Mais au bout de 10 ans, vous pouvez vraiment faire un bilan de ce qui se passe. Bilan, donc, il est soit positif, soit moyen, mitigé, soit négatif. Ou soit vous êtes comme certaines sociétés, vous déposez le bilan. Ça veut dire vous fermez l'église. En positif, moyen, négatif, ou dépôt de bilan. C'est-à-dire c'est une catastrophe. Vous n'avez rien réussi à construire en 10 ans. Et croyez-moi, 10 ans de la vie de quelqu'un, c'est beaucoup. Surtout si c'est entre 30 et 40 ans, ou 40 et 50 ans. Ou 20 et 30 ans. À ce moment-là, si vous avez bien travaillé, que votre bilan est positif, vous commencez à avoir une émergence de leaders. De leaders qui se sont convertis dans votre église, que vous avez vraiment formés. Et ce sont des gens en qui vous commencez à avoir vraiment une confiance importante. Parce que vous allez voir que il y a quelque chose qui est très très important, c'est que le leader puisse produire des leaders. On parle beaucoup de leadership actuellement, mais il y a des gens qui disent qu'ils arrivent à créer 100 ou 200 leaders en 6 mois. Je suis désolé, créer un leader en 6 mois, c'est pas possible. Ça demande plus de 10 ans à créer un bon leader. Ça c'est clair. On n'est pas là pour le chiffre, on est là pour la qualité. Mais là, vous devez avoir une émergence de leaders qui se sont convertis au travers de votre ministère. En fait, des gens qui sont vraiment vos fils. Vous savez, il y a une différence entre faire des disciples et faire des fils. Beaucoup font des disciples, mais peu font des fils. Faire un disciple, c'est de l'amener à une certaine maturité spirituelle. Mais le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Le disciple prendra tout du leader et ira créer son propre truc après. Il partira de votre ministère. Le fils, il restera au sein de votre ministère et continuera à porter votre vision. Et ça, c'est la plus grande difficulté. Créer des disciples, on a beaucoup de moyens pour créer des disciples aujourd'hui. Mais le disciple, ce n'est pas quelqu'un qui continuera avec votre vision. C'est quelqu'un toujours qui cherchera au moment opportun à se séparer de votre vision pour aller créer sa propre vision. Ça vous parle, Pasteur Denis?
Amen.
Amen.
Réfléchissez bien à ce que je dis ici. Créer des disciples, c'est créer des gens. On les forme par exemple à l'Institut biblique, on les forme dans différents départements de l'Église. Mais au moment où, toujours dans leur cœur, ils diront, le jour où je pourrai partir, je partirai. Pour faire mon ministère. Et on voit beaucoup ça dans le corps de Christ. C'est pour ça que chacun a sa petite boutique. Par contre, faire des fils, c'est très différent. Faire un fils, le fils, lui, il sait ce qu'il doit à son père. Il lui doit tout. Et il continuera dans la vision. S'il fait quelque chose, une autre œuvre, il la fera toujours rattachée à la vision originelle. Il ira toujours vers celui qui l'a mentoré, celui qui l'a coaché pendant toutes ces années. Et il aidera, en fait, il fera une branche en continuation de la même vision avec le respect qu'il doit à son père. Le disciple, lui, lui c'est un preneur. Le disciple n'est pas un donneur. Le disciple est un preneur. Le disciple, si jamais il voit son maître, entre guillemets, faire des erreurs, il se réjouira en disant « c'est la bonne occasion pour moi pour partir ». Voyez ? Vous voyez la différence entre le disciple et le fils ? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, il y a une émergence de leaders, mais certains sont des fils, mais la plupart sont des disciples. L'Église, là, vraiment, elle est établie, elle est indéracinable. Elle est vraiment planté, même s'il y a encore des tempêtes, même si le pasteur passe par des difficultés, ça ne sera pas déracinable. Plus rien ne peut la couler facilement, c'est comme une très grosse entreprise. Si vous avez une multinationale, c'est très difficile de la faire couler du jour au lendemain. Par contre, si vous avez une petite boutique dans un petit quartier, bon, bah, si le gars a mal géré ça pendant quelques mois, il met sa boutique par terre et il ferme sa boutique. Voilà. C'est la différence entre une église établie et une église qui, bon, n'est pas du tout établi, est vraiment bancal. Donc, les gens sont tellement bénis, de toute façon, dans cette phase, hein, vous les avez amenés dans l'attitude, que finalement, ils ne changeront jamais d'église. Sauf si vraiment ils déménagent, sauf si vraiment ils passent. Bon, mais ils sont là, ils sont fidèles, ils sont prêts à aider leur pasteur régulièrement, ils se donnent régulièrement, ils donnent leurs finances régulièrement, ils ont compris la vision de l'église, ils sont dans la vision de l'église et ils sont dans dans la machine, l'immense machine qui s'est mise à tourner, que vous avez mis en route en tant que leader. Le leadership est pleinement renforcé, vous avez plein d'argent et là, vous attaquez les médias. Partout. Parce que vous avez un potentiel financier. Les églises qui ont du mal à être médiatisées, ce sont les églises qui n'ont pas d'argent. Toujours pas mal, parce que les médias coûtent cher. Prêcher l'évangile, ça coûte cher. Quand vous voyez des gros ministères, vous n'imaginez pas les millions de dollars. Benin, je crois, un budget de 200 millions de dollars par an. C'est énorme. Mais à chaque fois qu'il va financer une croisade, ça lui coûte plus $1 million. Il finance tout. Et c'est médiatisé, il est médiatisé dans le monde entier, Benin. C'est facile pour lui de réunir des gens. Il a juste à parler à la télévision, à dire voilà, d'un tel jour je serai à tel endroit, il envoie son équipe, il envoie tout son matériel, et c'est fini. Et Dieu bénit au travers de cela. Mais pour arriver à un tel niveau, en étant vraiment un ministère, ça demande des années. Et des années et des années. Ça demande de la fidélité, ça demande beaucoup de choses. Mais là, quand l'Église est à ce niveau-là, bon, il n'y a pas de problème. Elle a beaucoup d'argent. L'argent n'est plus un problème. Le bâtiment est largement payé depuis très longtemps. Vous avez des dizaines et des dizaines d'employés, 70, 80, 100 employés. Il y a des églises qui ont plusieurs centaines d'employés. Le ministère de Crèvecœur-Dollard a 500 employés, c'est ça? Ouais, c'est ça. 500 employés, ils sont actuellement. Mais les églises de 3000, 4000 personnes aux États-Unis, en général, ont facilement une centaine d'employés. Ce qui représente des gros budgets. Mais ils sont médiatisés un peu partout. Ils envoient des CD, des DVD, des CD, des DVDs, tout ce que vous voulez en D. Des pamphlets aussi. Bon, ils font des émissions sur les télés locales, certaines sur les télés nationales, certaines sur les télés internationales. Bon, vous voyez, là, ils ont les moyens de payer des choses. Mais ça coûte cher. Une émission sur TBN, 30 minutes, ça vous coûte $5000. Ah, donc si vous en faites déjà une par semaine, ça vous ferait un budget de 20 000. Vous voyez, bon, en plus, les montages et toute l'équipe que vous devez avoir derrière, médiatique, etc., etc. Donc, mais là, c'est très clair, l'église, bon, alors, ces églises-là peuvent rester à un certain plafond aussi. Moi, j'en ai vu un certain nombre. Il y a 15-20 ans, elles avaient 3000 membres, elles ont toujours 3000 membres aujourd'hui. Bon, ça va, tout va bien, mais bon. Et là encore, le pasteur ne doit pas dire, je suis arrivé à un certain niveau, donc maintenant je suis cool. J'ai 3 maisons, j'ai 4 voitures, j'ai un très bon salaire, ma retraite est assurée, etc. Parce qu'il y a des pasteurs qui restent comme ça, et c'est fini. Bon, ils viennent, parfois ils continuent leur ministère, ils écrivent un ou deux livres tous les 2 ans, 3 ans, ils sont tranquilles, tout se passe très bien, mais c'est dommage parce qu'ils pourraient aller encore beaucoup plus haut. Voilà, ils pourraient encore continuer à gagner de l'altitude et faire beaucoup de distance. Certains le font, d'autres ne le font pas. Et là encore, on doit être toujours à l'écoute du Seigneur. C'est pas parce qu'on a réussi dans le ministère que forcément on est arrivé. Quand on est auto-satisfait dans le ministère, je vous dis, c'est une catastrophe. C'est là où on commence à s'endormir. Bon, on peut continuer à garder un certain niveau, c'est vrai, mais on s'endort. Et franchement, moi j'ai vu certains ministères, il y a certaines églises que j'ai visitées, qui ont 2, 3 000, voire 5 000 membres. Bon, c'est bien. Mais des fois, il y a des églises qui ont 200, 300 membres, qui sont beaucoup, beaucoup plus dynamiques, et où la présence de Dieu est beaucoup plus forte, et la parole de Dieu est bien meilleure. Mais bon, ils sont arrivés à un certain niveau, ces gens qui ont 3, 4 000, 5 000 membres, bon, ils sont tranquilles, tout est là, vous visitez, ils vous font visiter leur ministère, vous avez un grand auditorium, vous avez le département de louange qui a 3, 4 salles à lui, vous avez les trucs des enfants, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez tout, ils font même, ils nourrissent même des gens dans la rue, etc. Bon, ils font tout un tas de trucs, oui, c'est vrai, mais on sent qu'il n'y a plus cette fraîcheur, il n'y a plus ce désir d'aller de l'avant avec le Seigneur et de rechercher le Seigneur. Parce que la soif est bon. Voilà, je suis arrivé dans un certain domaine. Alors, quatrième phase maintenant, l'expansion. Quatrième phase, c'est l'expansion. Alors là, on arrive à une phase où on veut... En fait, un leader, un bon leader, doit être capable de créer des leaders qui vont eux-mêmes créer des leaders. Ça, c'est le jour où vous arrivez à un domaine où vous avez formé des leaders qui eux-mêmes forment des leaders, là vous avez une influence extraordinaire. Ça prouve que vous êtes arrivé à multiplier ce que le Seigneur vous a donné de faire. Parce que vous pouvez faire une œuvre locale qui peut être excellente, mais ça peut aussi s'arrêter là. Il y a un moment où on peut et on a la capacité, et Dieu nous montre qu'on doit s'étendre. C'est-à-dire que l'église mère devient productrice d'autres églises et évite peut-être ce que, par quoi vous êtes passé, c'est-à-dire à avoir commencé une œuvre dans tout un tas de difficultés. Vous avez formé des leaders et ces leaders ont un appel de Dieu pour démarrer d'autres églises. Là encore, attention, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui font des erreurs, surtout les églises américaines. Elles veulent avoir des branches un peu partout dans le monde, donc elles envoient de l'argent à droite à gauche pour trouver des gens qui vont les représenter quelque part. Mm-hmm. Et ça, quand on voit le nom de certaines églises, au Burundi, on voit tous les noms des églises des États-Unis, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. C'est classique. Bon, il y a un gars qui est passé par là un jour et qui a visité une église, il a pris le nom, où il a eu ses $300 par mois, et il est content, et il fait son église, et il lui met le nom, et l'église mère dit, ouais, nous avons aussi une église au Burundi, nous avons X églises en Afrique, etc., etc. Il n'y a rien de pire que ça, je trouve, parce que ça, c'est vraiment catastrophique. Et en fait, l'aspect de l'expansion, c'est vraiment une église qui fait des petits. Et beaucoup de petits. Et ça, c'est super quand on arrive à ce domaine-là, où on aide d'autres serviteurs de Dieu à démarrer dans leur ministère. Ça, c'est un moment très rémunérateur pour un serviteur de Dieu qui a réussi. C'est-à-dire que maintenant, bon, il a réussi une bonne œuvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il aide les autres. Donc, il paye un pasteur qui va démarrer une nouvelle église. Il donne un salaire pendant des mois ou plusieurs années pour que ce pasteur-là ne soit pas dans des conditions difficiles, qu'il n'ait pas besoin de se poser la question, etc. etc. Bon, il commence à payer des loyers aussi pour démarrer l'église, etc. etc. Donner un minimum de matériel pour que l'église puisse démarrer dans de bonnes conditions. Et ça, c'est super. Il vient aider sur place, l'église, régulièrement. Il la visite, il aide, etc. 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 Et ça, c'est bon. Et ces leaders forment aussi d'autres leaders, etc. etc. Et ça, l'enfantement des nouvelles œuvres, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et très peu d'églises qui ont démarré peuvent, je dirais, dire qu'elles ont beaucoup aidé d'autres églises à démarrer. C'est dommage d'ailleurs. Parce que c'est un des objectifs de Dieu, qu'on arrive aussi, une fois qu'on a vraiment réussi dans le ministère, à aider d'autres à démarrer, plutôt que se dire, ben, moi je vis bien, ça va, tout va très bien pour moi, j'invite tel grand pasteur à venir dans mon église, on prêche, on a un bon moment, gloire à Dieu, amen, on te fait une conférence, etc. Moi j'ai assisté à des conférences de très grosses églises, certaines étaient vraiment extraordinaires, vraiment divines, d'autres c'était moins que moyen. Pourtant des grands prédicateurs qui passaient là, mais on sentait, bon, c'était plus un aspect, bon, on invite tel et tel pasteur, mais on sentait pas qu'il y avait vraiment quelque chose de Dieu profond derrière, un temps particulier de Dieu, qui amenait quelque chose de particulier. Mais ça se produit. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Alors, cinquième phase, brièvement, c'est le passage du témoin. C'est le passage du témoin. Alors ça, c'est une phase qui est extrêmement difficile, parce que c'est l'héritage qu'on va laisser derrière nous quand nous allons partir au ciel. Et là, il y a des choses qui parfois se font très bien, d'autres qui se font très mal. Un homme a travaillé toute sa vie, un serviteur de Dieu, il a fondé un gros ministère, Dieu l'a largement béni, il a été capable d'enfanter plein d'autres ministères, maintenant, eh bien, il vieillit, et quand il vieillit, ben, il sait qu'il va mourir. Et là, il se passe différentes choses. L'héritage, comme on dit en anglais, legacy, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour certains serviteurs de Dieu, parce que certains serviteurs de Dieu ont travaillé tout seuls, ont bien réussi, mais sont extrêmement isolés. Leur famille a été une ruine, leurs enfants ne suivent pas le Seigneur, ça arrive parfois, parce qu'ils ont mis trop l'accent sur leur ministère et pas sur leur famille. Leurs enfants ne sont pas dans le ministère, et ils se sont un peu enfermés. Vous savez, certains serviteurs de Dieu ont tellement souffert par les autres, au travers des autres, qu'au bout d'un moment, ils se sont emmurés. Ils ont réussi leur ministère, mais ils se sont emmurés au niveau des relations. Ça arrive parfois, des gens qui n'ont quasiment aucune relation avec d'autres serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont bien réussi, ils ont été très doués, ils se sont bien débrouillés, c'est vrai, mais ils n'ont créé que très peu de relations. Et surtout, ils n'ont pas formé de futurs leaders. Et croyez-moi, quand un serviteur de Dieu qui a exercé 50 ans le ministère dans son église décède, bien, il faut trouver quelqu'un d'autre, c'est pas évident. Et parfois, la succession se passe bien, et des fois, elle se passe très mal. Une très belle succession qui s'est produite, c'est la succession de John Austin, avec son fils Joël. Ça s'est passé d'une façon assez étonnante et miraculeuse. John Austin a tellement semé dans d'autres ministères, dans d'autres endroits du monde, beaucoup en Inde, ils ont donné énormément d'argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était resté dans un endroit assez simple où il avait construit son église, l'écho de départ, à Houston. Et John Austin, en fait, avait construit un bâtiment de 10 000 places et il ne l'a jamais rempli dans son ministère. Il a réussi à peu près à avoir 6 000 places, 6 000 personnes qui venaient régulièrement, voire 7 000, mais il n'a jamais réussi à remplir complètement son auditorium. Et quand son fils a pris la relève, alors que son fils n'était rien dans le ministère, c'était juste quelqu'un qui s'occupait des médias, d'un seul coup, Dieu a béni son fils d'une façon incroyable. Et vous connaissez aujourd'hui les Coudes, qui est la plus grosse église, je pense, d'Amérique du Nord, d'ailleurs des États-Unis, mais d'Amérique du Nord en général. C'est une très belle réussite. La succession s'est extrêmement bien passée. Il y a d'autres successions qui se sont très mal passées. Je connais l'église à Paris qui marchait très bien pendant une période, qui était vraiment l'église référence sur Paris. Et la succession s'est tellement mal passée que cette église aujourd'hui a perdu, je crois, plus des trois quarts de ses membres. Et c'est devenu une catastrophe. C'était des bagarres internes. Des bagarres intestines, comme on dit parfois, qui en fait se sont extrêmement, extrêmement mal passées. Et la succession, parfois, pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Préparer quelqu'un qui va vous succéder, c'est pas toujours facile. Il y a une église pour qui ça s'est très bien passé, c'est l'église qu'il y a dans l'est de la France, qui est une des églises les plus grosses de France, qui est l'église des Peter Schmitt. Samuel Peter Schmitt, son père a démarré l'église, il est encore vivant d'ailleurs, et le fils a repris là actuellement, et ça s'est très bien passé. Alors, savoir est-ce que parfois c'est le père et le fils va reprendre le père, parfois ça se passe. Il faut dire qu'il y a un certain nombre d'églises où la succession s'est faite au travers d'un papa qui a bien travaillé pendant des années et des années et des années, et le fils a été appelé par le Seigneur et a repris la succession. C'est pas toujours le cas, mais je dois dire que c'est un certain nombre de fois le cas. Mais ça ne se passe pas par héritage familial, bien sûr, nous le savons. Mais il y a, je dirais, un certain nombre de fois, Dieu bénit une famille, et au travers de ça, il y a une succession qui se fait de père en fils, et parfois en petit-fils aussi. Certaines successions, je vous dis, se font très difficilement, d'autres se passent très très bien, mais là encore, c'est le travail du leader, qui aura compris que finalement après lui il y aura quelque chose qui va se passer. Il y a certaines successions qui sont très mal faites, par exemple John G. Lake, qui avait un très grand ministère de guérison au début du XXe siècle, a eu beaucoup de problèmes avec sa famille. Il a eu une première femme qui est décédée en Afrique du Sud. C'était un Américain qui avait exercé son ministère en Afrique du Sud. Ses enfants se sont rebellés très rapidement parce qu'il s'est très peu occupé de sa famille, il était tout le temps parti. Sa femme est d'ailleurs morte quasiment dans des conditions extrêmement difficiles en Afrique du Sud. Il est revenu aux États-Unis, il s'est marié, il s'est remarié, il a eu aussi d'autres enfants avec sa deuxième femme. Et en fait, là, ça s'est quand même mieux passé. Mais après John G. Lake, il n'y a jamais eu d'enfant de John G. Lake qui a pu avoir continué le ministère de guérison. Donc ça se passe parfois, malheureusement, et c'est pas chose facile. Des fois, un homme travaille toute sa vie, il travaille très bien pour le Seigneur, et la succession de son ministère se fait très mal, donc on se souvient de lui, mais il n'y a plus rien après lui. Voilà, c'était les 5 phases d'une œuvre de Dieu.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.